Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Nous sommes au début du mois de septembre et l'information est d'abord relayée par France Bleu, alertée par le SAMU social de Seine-Saint-Denis. Il s'agit de femmes sans abri qui viennent d'accoucher. En théorie, quand une femme SDF accouche à l'hôpital, le 115 est immédiatement contacté et une place est trouvée pour ces femmes encore plus fragiles que les plus fragiles. Sauf que d'hébergement d'urgence, de places dans les hôtels à la journée et autres foyers, il en manque alors cruellement. Les jeunes femmes sont donc à la rue avec leur bébé, que dis-je, leur nourrisson. Cet été, la situation semble avoir explosé, a dénoncé l'association Interlogement 93, qui gère le 115, puisque 54 femmes seules ou familles avec bébés ont été laissées à la rue à la sortie de l'hôpital. Souvent, pour éviter cette situation, les maternités essaient de faire durer le séjour à l'hôpital de ces jeunes mères et vont parfois jusqu'à financer directement des chambres d'hôtel. En réalité, le problème n'est pas nouveau. C'est le nombre de cas qui est fou. Déjà en janvier 2016, la Fondation Abbé Pierre alertait sur le drame des mères à la rue, soit en situation irrégulière et terrifiées d'être expulsées en entrant à l'hôpital, soit paniquées à l'idée que leur enfant soit enlevé et placé. Une détresse qui engendre en plus des problèmes de santé, naissance prématurée, césarienne en urgence, retard de poids des bébés serait 2 à 3 fois plus élevé pour ces femmes précaires que dans la population générale. Enfin, en 2017, on a compté 653 femmes enceintes ou ayant accouché qui ont été orientées vers le 115 par des maternités. Tout de suite, pour les pieds sur terre, Élodie Maillot a rencontré 2 d'entre elles. La première est encore à la maternité et n'a aucune solution en sortant. Et l'autre a vécu à la rue avec son enfant pendant bien trop longtemps déjà.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Mariam. Je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai accouché il y a quelques jours de cela. Comme je n'ai pas un endroit fixe, quand j'étais enceinte, j'étais dans un foyer. Donc là, j'attends pour pouvoir être logé. Parce que l'hôpital me dit d'attendre. Pour qu'on trouve un logement d'abord avant de partir.
Mais comment ça se passe en fait? Vous appelez le 115, le SAMU social, et ils doivent vous trouver un logement?
Oui.
C'est ça la solution, hein? Et jusque-là, vous pouvez rester à l'hôpital jusqu'à ce que vous trouviez un logement?
Les habits de l'enfant sont devenus sales. Si tu n'as pas vu, j'ai lavé, j'ai rincé à la main pour mettre ici. Non, c'est une vieille personne, une connaissance que j'étais au SAMU social avec lui parce qu'il a passé des moments difficiles. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, il m'a dit si je vais enlever la grossesse, il faut une intervention médicale. Je ne pouvais rien faire encore, donc je me dis si Dieu m'a donné cet enfant, je ne sais pas pourquoi il m'a donné. Donc, assumer mes responsabilités. J'ai eu une enfance difficile. J'ai perdu ma mère à bas âge. Quand j'ai perdu ma mère, je vivais avec mon père qui a 3 femmes. Maman m'a donné à l'un de mes cousins en mariage. Je ne le connaissais pas. C'est le jour du mariage, j'ai su qu'on devrait me marier à l'un de mes cousins. Mon père disait que si je refusais, il allait me renier. Donc je lui ai dit à mon père, je suis ta fille, tu fais ce que tu veux de moi.
Vous aviez quel âge?
J'avais 14 ans. Mais moi, je ne le désirais pas. Si tu désobéis aux parents, c'est souvent chez nous, ça veut dire que non, tu vas avoir la malédiction. Donc, souvent, c'est ça qui fait peur. En faisant plaisir à tes parents, tu te fais du mal toi-même. Ils ont fait le mariage, J'ai vu que ça n'allait pas. Personnellement, je ne l'aimais pas, lui aussi. Souvent, quand je le refusais au lit, il faisait la violence, il me mettait dehors. Je préfère rester dehors, dormir dehors. On vivait comme cela dans la maison jusqu'à le jour où moi j'ai dit, je ne peux plus, je suis partie. Je suis allée. Mes parents m'ont dit, si je ne me retourne pas, je ne suis plus l'enfant. J'ai dit, je préfère ça. Donc j'ai quitté. Je n'avais pas d'argent.
Qu'est-ce qui vous a donné le courage de partir?
Je veux vivre ma vie. Je ne veux pas vivre ma vie pour faire plaisir à quelqu'un. Là, si je n'avais pas le courage, j'allais mourir. Donc il faut que j'aie le courage de me battre pour être heureuse un jour. C'est ça qui m'a donné le courage. Quand je partais, il y avait une connaissance qui travaillait à la gare. Je suis partie, c'est lui qui m'a mis dans le camion et puis je suis partie. Après, j'ai pris la fuite. Si tu as la paix du cœur, tu peux vivre partout heureux. Mais si tu n'as pas la paix du cœur, que tu as tout, tu ne peux pas vivre heureuse. Je suis arrivée en France en avril 2016. Après, elle a dit qu'il passait par l'Allemagne. Après, je suis venue ici. C'était mon rêve de venir, de voyager en Europe.
Comment vous avez rencontré le papa du petit?
C'est le destin. J'ai marché et puis ma vie m'a abordé.
Vous vous êtes trouvée belle?
Ouais. On a commencé à taquiner, on a commencé à causer. Après, il a pris mon numéro en s'appelant, s'appelait. Après, il m'a déclaré son amour. Il m'a dit qu'il m'aimait. Je ne croyais pas à l'amour encore. Donc, il me disait que je devrais reprendre ma vie, me donner une nouvelle chance. Quand j'ai eu 8 mois de grossesse, ils m'ont mis dans un foyer. Quand il regarde, je suis contente d'être une mère. J'ai pris Dieu d'avoir la force pour l'élever, de donner de l'éducation pour qu'il puisse aller à l'école et puis devenir quelqu'un d'aimé. Quand je vois d'autres avec les mamans, toujours tu es là, tu as les larmes aux yeux parce que tu t'es dit si ma mère était là, elle allait m'aider à s'occuper de mon enfant. Mon souhait aujourd'hui d'être heureux dans la vie avec mon enfant. Avoir la force de m'occuper de lui. C'est mon destin. Donc, je ne regrette rien dans la vie.
Je m'appelle Anne Lorient, j'ai vécu 17 ans dans la rue, dont 2 ans et demi avec mon premier enfant. Donc, j'étais dans une famille bourgeoise dans le nord de la France. Mes parents avaient un commerce dans une petite ville provinciale, ils étaient connus. Mon père même faisait partie du conseil municipal de la ville. Enfin, voilà. Et donc avec des parents plus ou moins absents, parce que beaucoup de travail, etc. Et donc moi, j'étais livrée à mon frère aîné, que je devais subir, quoi. Quand je disais à l'école, les profs avec qui j'en parlais, aux médecins, donc je me faisais violer par mon frère. Tout le monde me disait d'abord, un, c'est pas vrai, et puis si c'est vrai, tu dois te taire parce que ta famille est connue. Donc en fait, j'avais aucune aide. Et j'ai quitté ma famille à 18 ans, le jour de mon anniversaire. J'avais fait ma valise, j'ai pris le premier train pour venir à Paris parce que je croyais que Paris c'était l'Eldorado et que c'était super, que j'allais être libre, que j'allais être une femme tranquille. Et aussi parce que j'avais une de mes tantes qui habitait à Paris et qui m'avait dit si t'as un problème, un jour tu viens me voir. Donc ce jour-là était arrivé, donc je suis allée la voir. Et quand elle m'a vue, elle m'a dit oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne peux pas avoir d'histoire avec ta famille. Non, je ne te prends pas. Donc là, je me retrouve toute seule, dans la rue, à la Défense. Et là, je deviens SDF. Je suis un peu perdue, j'avoue. Donc je traîne dans la défense. Et c'est le début de l'enfer. C'est le début de ma vie de SDF. À partir de là, je vis beaucoup sur les quais de Seine. Parce que je voulais surtout pas vivre en groupe, je voulais vivre seule. J'étais très sauvage, je parlais plus à personne. Je mangeais dans les poubelles et aussi dans les poubelles, je trouvais des vêtements. Et j'avais trouvé un énorme manteau noir qui m'allait très bien parce que je me cachais dedans et j'avais l'impression que personne ne me voyait, ce qui est complètement faux. Mais on perd la tête quand on est dehors. On se dit, si moi je me vois pas, les autres ne vont pas me voir. C'est complètement débile, mais... j'avais besoin de me cacher, de me retrouver comme un peu sauvage. Je suis restée presque 5-6 ans très sauvage comme ça. Voilà, parce que tant que je tombe amoureuse, c'est le plus bel amour de ma vie. Donc c'était un musicien. Il jouait de la musique dans le métro. Moi j'étais passée par hasard dans le métro et j'étais restée scotchée parce que j'aime la musique, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et puis j'ai croisé son regard et t'es comme toute mulinette à la con. Voilà, je suis devenue amoureuse en 2 secondes et demie. Et je me suis assise dans un escalier qui donnait vue sur ce groupe-là. Et jusqu'au moment où il a levé la tête et voilà. Et puis on est tombé amoureux direct. Et là, je l'ai attendu, puis voilà. Bon, sauf qu'ils y vivaient dehors, ça m'arrangeait pas non plus parce qu'on était tous SDF. J'aurais bien tombé. Prochaine fois que je tombe amoureux, j'aimerais bien que ce soit un prince avec un château, quoi. Mais là, c'était mal barré. Donc voilà. Donc du coup, on a vécu dehors. Mais on a continué. Mais au moins, on était amoureux. On était à Paris, sur les toits de Paris. On faisait l'amour sur les toits de Paris. C'était trop bien. C'était la liberté totale.
Ouais. Où ça?
Ah bah ça, sur les toits de Paris, il y en a partout. Près des Galeries Lafayette, il y a plein d'échelles partout. Voilà. Donc, on est debout, mais on s'accroche aux cheminées, on s'accroche aux échelles, on s'accroche partout. Parce qu'on est pris dans la fièvre. C'est un peu l'inconscience de l'amour, hein. C'est tout. Après, il ne faut pas se faire voir par les flics et tout, mais si on se débrouille et puis faire l'amour sur les toits de Paris, c'est sympa. On a la liberté, parce qu'en fait, quand on est en bas, sur les trottoirs, on fait la manche, les gens vous crachent dessus. En tant que femme, on vous fait des propositions indécentes. Tu veux 1 euro, bah, faut faire quelque chose en échange. Donc c'est toute la journée, c'est pénible. On se fait courser par des mafias. Enfin bon, il y a plein de problèmes. Mais sur un toit de Paris, c'est aussi un peu se mettre en dehors de tout ça. On se met à l'écart de la méchanceté qu'on reçoit toute la journée. Et puis c'est aussi un lieu où on peut être seul, tranquille, réfléchir un peu de ce qu'on fait de sa vie, etc. On montait au 7e ciel. On n'a pas la même notion du temps quand on est dehors. On est un peu perdu dans le temps. On sait juste quand est-ce que le soleil se lève et quand est-ce que le soleil se couche. Et moi, je me disais, si j'ai une journée comme ça, entre deux soleils, où je suis bien, où je suis heureuse, où je me sens aimée, où mon corps sert à quelque chose de beau, je serais contente. J'aurais gagné ma vie. C'est ce moment-là qui a été le plus beau de ma vie. Hein. Comme quoi, on peut être aussi heureux en étant SDF. Il ne faut pas croire qu'on est tous en train de pleurer. Il y a des belles choses aussi dans les SDF. Je savais que c'était que l'amour ça allait pas durer. Bon, on sait pas, mais je me dis de toute façon, même si je suis amoureuse qu'une journée, je serais contente, quoi. Parce que c'est trop beau. On se dit on mérite pas ça. Enfin, ça c'est pas pour nous, quoi. C'est pas pour nos histoires à nous, quoi. On n'est pas dans le même monde des gens qui sont beaux, riches, amoureux, avec des enfants et des poussettes. On est loin de tout ça, quoi. Nous, on est dans les rats, les poubelles. Donc on se dit, c'est pas notre vie, quoi. pour moi, je suis un peu fleur bleue, c'est-à-dire que les enfants, ça venait des histoires romantiques et tout, qu'on voit dans les cinémas, mais pas dans la rue. Pas dans cette horreur. Je n'ai même pas imaginé. La grossesse, je ne l'ai pas vue. J'ai rien vu du tout. J'ai pris conscience que j'étais maman au moment où il est tombé par terre, c'est tout. Voilà. Et là, je suis devenue mère. Et là, gros choc. Je m'y attendais pas. Je me suis rendu compte de rien. J'ai vraiment pas eu aucun symptôme. J'avais mes règles régulières tous les mois. C'est vraiment un vrai déni de grossesse. Et comme je suis quelqu'un d'un peu grosse, un peu forte, j'ai rien vu au niveau du poids, au niveau de la morphologie, j'ai rien vu. Donc il est arrivé, mon petit garçon, un matin, voilà. Je me souviens, c'était en plein hiver, on est le 17 décembre. J'étais sur un quai près de Châtelet. Il faisait très froid et j'avais des gros manteaux sur moi et j'avais dormi toute la nuit dehors. Et du coup, je me suis levée et j'ai eu une énorme contraction, mais je n'ai pas senti les autres. Donc, j'ai eu la contraction qui m'a fait sortir le gamin, quoi. Donc, d'abord, je suis affolée parce que je me dis, mon Dieu, il est blessé, il est... Donc après, il y a les gens qui étaient autour de moi qui ont paniqué, qui ont appelé les pompiers. Donc, c'est les pompiers qui ont coupé le cordon et qui ont mis directement mon fils dans une couverture de survie. Et puis, t'as l'instinct maternel qui arrive en 2 secondes et demie. Hein. C'est les pompiers qui voulaient le toucher. Je dis, ne vous touchez même pas mon fils, quoi. Alors qu'il était par terre plein de sang, c'est moi qui devais le toucher, quoi. C'est moi qui devais le chercher. Et du coup, ils m'ont fait allonger et je suis montée dans la voiture des pompiers. J'étais surprise, j'étais choquée, mais en même temps, j'étais contente. J'étais contente parce que j'avais fait quelque chose de beau. Et ça sort de moi, quoi. Tout à coup, tu te dis, oh, j'étais capable de faire ça, moi qui sert à rien, qui fait des poubelles, etc. Moi, j'étais capable de faire ça. C'est bizarre. Et tout à coup, je me suis dit, pourquoi moi? J'avais lu dans un article que les enfants choisissaient leurs parents. Et là, quand j'ai eu cet enfant, je me dis, mais pourquoi il m'a choisi, moi? Et en fait, c'est parce qu'il va me sauver. Je savais que cet enfant allait me sauver, là. Oui. Et du coup, après, on m'a emmené à l'hôpital. La première chose que j'ai entendue à l'hôpital, c'est les infirmières qui disaient que j'étais sale, etc. Mais c'est normal, hein. Je suis une SDF. Et la deuxième chose que j'ai entendue, c'est qu'ils ont pris le téléphone et ils ont appelé, je pense que c'est l'ASE ou la DAS, je sais pas. Venez vite, il y a un enfant à récupérer. Il n'est pas question qu'on le redonne à sa mère, elle ne pourra pas l'élever. Tout ça le jour de l'accouchement. Donc ça, c'était pas question, parce que moi, justement, je venais de comprendre des choses, que peut-être il allait me sauver, ou que voilà, j'étais tellement contente et tout. Du coup, j'ai paniqué. Donc j'ai pris mon enfant qui était à côté de moi dans un petit berceau et je me suis sauvée de l'hôpital avec l'enfant sous le bras. Mais alors après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Qu'est-ce qui va se passer? S'il attrape froid, s'il va faire sa rougeole, comment je vais faire? Enfin, il n'a pas de vaccin, il n'a rien. Je traîne avec des rats partout. Et si je m'endors et qu'un rat le mord, enfin, c'est compliqué. Il y a plein de questions qui se posent comme ça. Donc c'est là que j'ai décidé d'avoir un porte-bébé. J'ai cherché partout, dans tout Paris, dans toutes les poubelles, un porte-bébé, j'en ai trouvé un. Et à partir de ce moment-là, je l'ai mis dans le porte-bébé, j'ai dit, tu n'en sortiras jamais. Parce que je ne veux pas qu'il soit mangé par un rat. Enfin, y a tellement de choses bizarres dans la rue. Je voulais qu'il soit accroché à moi, comme un kangourou, là. Je m'étais créé une poche et j'ai mis dans la poche. Et, voilà. Et jusqu'à ses 2 ans et demi, il est resté dans la poche, dans ce porte-bébé. Faire la manche avec un enfant, c'est attirer la pitié. Et puis, c'était le mettre en danger parce que quelqu'un pouvait le signaler à la police. Donc, moi, j'avais peur. Donc, non, je ne l'ai pas exploité pour ça du tout. Donc vers 10 mois, 11 mois, il a voulu commencer à marcher, ce qui est normal. Hein. Du coup, j'allais au parc des Batignolles, où il y a des barrières très basses. Donc il a appris à marcher au parc des Batignolles. Voilà. Et après, il est retourné dans le porte-bébé. Et le porte-bébé était entouré d'un énorme manteau noir. Les gens, moi je fais déjà 80 kilos toute mouillée, mais les gens pensaient vraiment que je faisais 200 kilos parce que j'avais un énorme manteau noir avec une énorme bosse devant. Ils pensaient que j'avais une énorme bedaine ou un truc comme ça, je sais pas. Puis je m'en fous. Et ils pensaient vraiment pas qu'il y avait un bébé, surtout que je lui disais de se taire, quoi. Il n'était pas question qu'il hurle. Hein. S'il hurlait, moi je me faisais arrêter par la police directe, il se faisait placer. Mais ce qui était étonnant, c'est qu'il a compris tout de suite. Il avait compris que s'il parlait, il était en danger. Donc mon fils ne criait pas, ne parlait pas. Alors, c'est devenu un problème plus tard, parce que du coup, jusqu'à ses 5-6 ans, il n'a pas parlé. Donc il a fallu après lui apprendre que même si on parle, on n'est pas en danger. Mais ça prend du temps. Il y a des traumatismes encore, hein, même encore maintenant. Il y a des moments où il a eu très faim, où j'avais rien à donner à manger. Là, il couinait, hein, c'était compliqué parce que du coup là j'étais obligée de me cacher encore plus, mais j'avais rien à lui donner à manger. J'avais trouvé un moment une boulangère sympathique qui me donnait des morceaux de pain qui étaient invendus le soir. Du coup il arrivait à le mâchouiller, ça lui faisait un peu de glucides, mais bon c'était pas suffisant, il a eu beaucoup de carences. Quand je vois les gens qui achètent des petits pots, des machins, des soupes et tout, puis je les vois qui regardent les recettes en disant « Oh, c'est quand même pas équilibré. » Mais moi, j'avais rien de tout ça. J'aurais rêvé d'avoir des petits pots. J'aurais rêvé d'avoir tout ça. Et puis, trouver des couches. J'avais pas de couches, j'avais rien. Donc, il fallait faire les poubelles, trouver des t-shirts dans les poubelles, les déchirer pour en faire des couches. Et je me disais « Est-ce qu'il sera mieux ailleurs ?» Enfin, je me posais plein de questions. Je me disais peut-être que j'avais fait une erreur, peut-être que j'aurais dû le mettre à l'adoption. Et puis après, j'ai tout de suite dit « Non, 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 c'est à moi, je le garde. » Et égoïstement, j'avais pas du tout envie qu'on me le prenne. Parce que moi, il avait changé ma vie, parce que moi, tout à coup, on se mettait à rigoler. Parce qu'un enfant, il s'en fout, si t'es sale ou pas. Lui, ce qu'il veut, c'est jouer avec sa mère. J'aurais pu l'emmener dans n'importe quel parc qu'il joue avec d'autres enfants. Mais je me suis dit, après, les parents vont venir me voir, me demander d'où j'habite, qu'est-ce que je fais. Et je ne saurais pas quoi répondre. Et puis, s'ils me voient et que je suis toute sale et tout, ils vont dire, leurs enfants, ne va pas avec cet enfant parce que la maman est crado, la maman est sale et tout. J'avais pas envie de ça. J'avais pas envie que mon enfant entende ça. Donc, je l'isolais. Et c'est pas bien. C'est pas bien ce que j'ai fait, j'avoue. Mais j'ai fait ce que j'ai pu au moment où je pouvais, quoi. Donc je suis à nouveau tombée enceinte et j'ai senti la grossesse. En fait, j'ai vu mon ventre s'arrondir et là j'ai compris. Et donc là, par contre, là, dès que j'ai vu la grossesse, j'ai été voir une association à Paris dans le 16e et je leur ai dit voilà, je suis enceinte et je ne peux pas recommencer. En fait, j'étais vraiment très fatiguée parce que c'est épuisant hein, de cacher un enfant, etc. Et de savoir qu'il y en a un deuxième, je ne pourrais pas faire pour les deux. Je ne peux pas prendre deux porte-bébés, enfin, on ne va pas s'en sortir. Quoi. Donc là, j'ai dit au secours. Et j'ai eu de la chance, je suis tombée sur quelqu'un de bien, dans l'association, et qui m'a vraiment aidée, et qui m'a trouvé cet appartement dans le 18e. Alors, un appartement tout pourri, plein de cafards, les murs abîmés, enfin, tout vraiment l'appartement pourri que personne ne voulait. Quoi. Mais moi, pour moi, c'était le paradis, parce qu'il y avait de l'eau chaude, il y avait une clé, rien que la clé, c'était énorme. C'était mon appartement. Et puis bon, une cuisine, quoi, se dire... on n'avait pas de cuisine aménagée, hein, mais on avait juste un lavabo. On a pu commencer à manger dans un appartement. Mais moi, j'avais du mal à rester enfermée dans l'appartement parce que j'étais habituée à être dehors. Donc l'enfermement, pour moi, c'est très très dur. Mais je l'ai fait au nom de mes enfants. Mais dès qu'ils s'endormaient, quelquefois dans la nuit, je partais. J'allais faire un tour et je revenais parce que j'en pouvais plus. Je montais sur les toits de Paris et je revenais après parce que j'avais besoin d'air, quoi. J'avais besoin de retourner dehors. Et puis voilà, petit à petit, ben, on a trouvé dehors des meubles. Et souvent, les gens ils jettent des meubles sur les trottoirs. On trouve une table, des chaises, enfin tout dépareillé. On m'a donné l'adresse d'une association. Et là, on me donnait à manger pour l'enfant, on me donnait des couches et tout ça. Donc là, ça nous a changé la vie. C'est-à-dire que tout à coup, il devenait un enfant normal. Donc c'est une super belle histoire. Tous les jours, je me bats pour qu'ils aient de quoi manger et qu'ils aient de quoi être bien, encore aujourd'hui. Et c'est très difficile. Et on se bagarre tous les trois parce que, voilà, quand il n'y a pas à manger, ben, on fait des appels sur Facebook. Anne-Lorient sur Facebook. Et je fais des appels en disant, au secours, j'ai besoin de tickets restaurant, au secours, j'ai besoin de lait. J'ai besoin de... Ben, des fois, ça marche, ouais, des fois, ça ne marche pas. Mais moi, j'essaye. Alors après, on m'engueule, on dit que je fais de la cybermendicité, ça s'appelle, la mendicité sur Internet. En tout cas, j'ai arrêté de faire la manche parce que j'en pouvais plus. J'en ai marre qu'on me crache dessus. Ça fait un an que je fais plus la manche. Voilà. Et puis maintenant, bah, j'ai d'autres projets. Mais en tout cas, mes enfants, c'est vraiment le cœur de ma vie et je me battrai tous les jours pour eux, quoi. L'âge moyen de la mort d'une SDF, c'est 49 ans. Donc je viens d'avoir 50 ans, j'ai dépassé cette moyenne, donc déjà j'étais très fière. Maintenant c'est que du bonus, je suis là, j'aurais dû mourir 10 000 fois dans la rue. Et puis j'ai deux beaux enfants, je suis très fière de ça. Ça a vraiment été un cadeau ces enfants. Sinon je ne serais plus là, c'est sûr.
Des mères à la rue, c'était un reportage d'Élodie Maillot réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Mariam, à Anne Lorient, à Émilie, Yasmine, Lily, Karl, Marjorie Gauthier, au docteur Gada Atem, au docteur Jessica Dahan et au service suite de couche de l'hôpital de La Fontaine, Paul Barnu, docteur Marie-Christine Chaud et docteur Sylvia Diaz et Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, Camille Richir, notre stagiaire et exceptionnellement à la technique, Bruno Gagnère-Fontanille.